L'appel du coucou de Robert Galbraith, lu par Lionel Bourguet. L'irritation de l'inspecteur Roy Carver allait croissant. Rondouillard, le visage cramoisi et arborant des chemises le plus souvent tachées de sueur autour des aisselles, sa courte réserve de patience était épuisée depuis déjà plusieurs heures. Il était là depuis presque aussi longtemps que le cadavre. Il avait les pieds tellement gelés que c'était à peine s'il les sentait encore, et la tête lui tournait tant il avait faim.
« L'ambulance arrive dans 2 minutes !»
annonça le sergent Eric Wardle. Répondant sans le vouloir à la question de son chef en entrant à son tour dans la tente, son portable pressé contre l'oreille.
« On dégage les gens pour lui faire de la place !»
Carver poussa un grognement. Sa mauvaise humeur exacerbée par la conviction que Wardle était excité par la présence des photographes. Beau garçon, aux traits juvéniles et aux épais cheveux bruns et bouclés maintenant raidis par la neige, Wardle, estimait Carver, s'était tout exprès attardé sous les objectifs lors de leur brève sortie hors de la tente, et cette idée le mettait en colère.
« Au moins, ils déguerpiront tous une fois que le corps aura été emporté !»
dit Wardle, le regard toujours tourné vers les photographes.
« Ils ne partiront pas tant que nous continuerons à faire comme si nous étions sur une scène de crime !»
répliqua Carver d'un ton sec. Wardle ne releva pas ce défi sous-entendu, mais Carver s'emporta quand même.
« Cet idiote s'est jeté de son balcon »
lança-t-il au sergent d'un ton définitif.
Il n'y avait personne avec elle. Avec le cerbère posté dans le hall, personne ne pouvait entrer ou sortir. Quant à votre soi-disant témoin, elle était complètement défoncée à la coque.
« L'ambulance arrive !»
coupa Wardle. Et au grand dam de Carver, il ressortit de la tente pour accueillir le véhicule en se plantant devant les caméras. Sur les écrans de toutes les télévisions, l'histoire fit oublier l'actualité politique, les guerres et les catastrophes. Et toutes les versions qui en furent diffusées s'agrémentèrent d'un flot d'images du visage parfait de la morte et de son long corps mince et sculptural. En moins d'une matinée, les quelques faits connus s'étaient propagés comme un virus dans la population. L'altercation publique avec le fiancé célèbre, le retour solitaire dans l'appartement de Mayfair, les cris qu'on avait entendus, et la chute finale. Fatale. Le fiancé courut se cacher dans un centre de désintoxication, mais la police resta muette. On fit la chasse aux personnes qui avaient accompagné la jeune femme au cours de sa dernière soirée, des milliers d'articles parurent dans la presse, et les chaînes consacrèrent au drame des heures entières de programme, cependant que la voisine, qui jurait avoir entendu une seconde de dispute quelques instants avant que le corps ne tombe dans le vide, avait son moment de célébrité et apparaissait sur des photos plus petites à côté de celle de la défunte dans toute sa beauté. Mais ensuite, dans un grondement presque audible de déception populaire, il fut démontré que le témoin avait affabulé et ce fut son tour de disparaître en clinique, tandis que l'explication surgissait comme un coucou sortant de son nid à midi.